Cette semaine, j'ai écouté un homme dont j'admire la foi. Avec sa femme, ils ont plusieurs années où ils étaient actifs. À un moment donné, il parlait de sa retraite. Ils sont retraités et puis il en parlait comme cela. Et c'était touchant de l'entendre dire combien il désirait toujours autant servir Dieu. Il résumait ainsi le but de sa vie. Les perdus. C'est-à-dire tout faire pour partager l'amour de Dieu à ceux qui sont perdus sans Christ. Mes amis, est-ce que votre motivation de servir Dieu continue à croître ou est-ce qu'elle diminue ou stagne? Où en êtes-vous par rapport à cela? Question. Quelle doit être notre motivation pour la vie, dans la vie? Saviez-vous que dans la Bible, il y a le sujet de motivation le plus élevé au monde? Cette motivation est capable de transformer une personne au point de l'amener à se donner totalement à Dieu et aux autres. Nous allons voir cela ensemble dans quelques instants. Ce matin, nous commençons une série de messages sur le livre du Deutéronome. On va passer un long moment dans l'Ancien Testament. C'est la première partie de la Bible, qu'on appelle l'Ancienne Alliance, ou l'Ancien Testament, l'Ancien Testament. Et nous aurons donc trois messages ce mois-ci. Ensuite, on va avoir deux mois où on va faire une pause. Puisqu'on va voir, je ne le dis pas tout de suite, mais en tout cas, une autre série de messages. Et ensuite, on reprendra cette série en mai et en juin. Et vous verrez très certainement que jusqu'à la fin de l'année, on va continuer sur Deutéronome. En tout cas, voilà, nous ouvrons ce texte du Deutéronome. Avant de lire, j'aimerais dire quelques mots d'introduction. C'est Moïse qui écrit. Vous vous rappelez de Moïse? Oui, c'est celui qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte où il était esclave. Et quand on dit qui était Moïse, on parle même à des gens qui ne connaissent pas trop la Bible. Assez souvent, ils ont une réponse. En tout cas, grâce aux films qui sont sortis. Après, il y a un peu... Voilà, ce n'est pas tout le temps très biblique ce qu'il y a dedans. Mais c'est incroyable. Dieu a utilisé un homme timide pour faire de lui un grand libérateur. Être à la tête d'un peuple immense et difficile à mener et devoir s'adresser à l'homme le plus puissant de l'époque pour lui dire de libérer tout un peuple esclave, ce n'était pas rien. Mais rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Dieu a utilisé d'une manière extraordinaire ce Moïse. Et j'aime la manière de faire de Dieu qui se plaît à utiliser les faibles pour confondre les forts. Moïse a écrit le livre du Deutéronome. Il parle de la part de Dieu pour encourager le peuple d'Israël à mettre sa confiance en Dieu et à lui rester fidèle. Pour ce faire, Moïse rappelle ce que Dieu a fait et donne ses commandements. Commençons maintenant notre lecture de ce livre. Deutéronome, donc chapitre 1, nous allons lire les versets 1 à 8. Je laisse un peu de temps pour que vous trouviez cela dans vos Bibles. Ça va être projeté, mais vous pouvez l'ouvrir maintenant. Donc, Deutéronome, chapitre 1, versets 1 à 8. Je lis. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, à l'est du Jourdain, dans le désert, dans la plaine qui fait face à Souf, entre Paran et Tophel, et entre Laban, Hatséor, Roth et Dizahab. Des noms que je connais, hein, n'est-ce pas? Il y a 11 journées de marche depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès-Barnéa. Le premier jour du 11e mois, de la quatrième année après la sortie d'Égypte, Moïse communiqua aux Israélites tout ce que l'Éternel lui ordonna pour eux. Cela se passait après leur victoire sur Sihon, roi des Amoréens, dont la capitale était Heshbon, et sur Og, roi du Basan, qui résidait à Ashtaroth et à Édréhi. J'ai pourtant beaucoup travaillé pour vous le lire, mais bon. C'est au-delà du Jourdain, au pays de Moab, que Moïse se mit à leur exposer cette loi. Il leur dit « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé au mont Horeb en ces termes. Vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. Levez le camp et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et dans toutes les contrées voisines, la steppe, la montagne et la plaine côtière, le Négev et les côtes de la mer, dans le pays des Cananéens et le Liban jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. Voyez, je vous donne cette terre. Entrez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob de leur donner à eux et à leurs descendants. » Fin de notre lecture. Impressionnant. La promesse de Dieu concernant la terre promise date de très très longtemps. Imaginez un peu, cette promesse avait été donnée à Abraham 600 ans auparavant. Ce n'est pas rien. Le peuple de Dieu est enfin sur le point d'entrer dans la terre promise. Yes, le moment est arrivé. Il y a quelque chose de très bizarre que nous apprenons dans ce texte. C'est qu'après être sorti du pays d'Égypte, le peuple aurait dû voyager 11 jours pour entrer dans la terre promise. Le texte le mentionne. Mais le voyage dans le désert a duré 40 ans. D'abord 2 ans passés près du Sinaï sur le chemin vers Kadesh, puis 38 ans d'errance dans le désert. C'est énorme. Mais pourquoi autant d'années d'errance sans être entré dans la terre promise qui était si proche? Voici un texte qui dit clairement ce qui n'allait pas. Je vais citer donc de longs versets dans Nombre chapitre 14. Nombre 14, versets 27 à 35. Nombre 14, versets 27 à 35. C'est Dieu qui parle. Écoutez ces paroles. « Combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle se plaindre contre moi ? Car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant par les paroles de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées, vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous qui avez été recensés, vous qui avez donc 20 ans et plus, puisque vous vous êtes plaints contre moi, en aussi grand nombre que vous êtes, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer, excepté Caleb, fils de Yéphouné, et Josué, fils de Noun. Mais vos enfants, dont vous avez dit qu'ils deviendraient la proie de l'ennemi, je les y conduirai, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Quant à vous, vos cadavres tomberont dans le désert, et vos fils seront nomades pendant 40 ans. Voilà, c'est écrit ici, hein. Ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité à mon égard, jusqu'à ce que le désert ait englouti tous vos cadavres. Vous avez mis 40 jours à reconnaître le pays. Eh bien, vous porterez les conséquences de vos fautes durant 40 ans. C'est répété. Une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce qu'il en coûte de m'abandonner. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traiterai cette communauté rebelle qui s'est liguée contre moi. Ils disparaîtront dans ce désert. C'est là qu'ils mourront. Là, c'est très clair, hein, n'est-ce pas? Ici, Dieu a clairement jugé son peuple pendant 40 ans à cause de sa rébellion envers lui, ses plaintes incessantes contre lui. Attention, si vous vous plaignez. Mais la plainte est dangereuse. quand on se plaint des autres ou de notre situation, à force, on se plaint de Dieu. Et on s'en rend même plus compte. Donc, attention à ce danger. Donc, il y avait les plaintes incessantes contre lui, ses infidélités. Alors, on sait qu'ils ont fait un veau d'or, etc. L'idolâtrie était assez présente dans le peuple d'Israël. Ses nombreuses fautes, son abandon de Dieu. Et ça va encore plus loin, ça dit qu'ils se sont même ligués contre Dieu. Waouh ! Ils se sont unis ensemble contre Dieu, contre son plan, ses voies et ses commandements. Les Israélites ont ainsi rejeté Dieu lui-même, lui qui les avait fait sortir de l'esclavage en Égypte. Agir ainsi, c'est rejeter son amour et vivre dans une totale ingratitude envers lui. C'est insulter Dieu, en fait. Pendant 40 ans, Dieu va faire disparaître la première génération, infidèle, qu'il a rejetée. Mais il accorde à la nouvelle génération d'aller dans la terre promise. Et donc, il faut bien 40 ans, puisqu'ils étaient bien petits. Il parle de ceux qui ont 20 ans et plus dans le texte. Et donc, on imagine que cette nouvelle génération, quand il avait donné le jugement, avait en dessous de 20 ans. Hein. Donc, il fallait bien qu'ils grandissent un peu, s'ils étaient encore trop petits pour conquérir un pays. On voit ici que même si Dieu a promis le pays de Canaan, il est bien plus préoccupé par la relation de son peuple avec lui, la formation de son caractère, sa croissance en amour et en pureté, et son obéissance, surtout son adoration du vrai Dieu. Maintenant, revenons à notre question de départ. Quel est le sujet de motivation le plus élevé au monde, capable de nous transformer et de nous pousser à nous donner entièrement pour Dieu et pour les autres? Voici comment Moïse l'a exprimé. Moïse commence à parler de la part de Dieu en disant, dans Deutéronome, chapitre 1, donc au verset 6, « L'Éternel, notre Dieu », etc. On peut passer vite dans notre lecture, mais quand il dit ça, c'est quelque chose de très fort. « L'Éternel, notre Dieu ». Quand on sait tout ce qui s'est passé, vous voyez le texte qu'on a lu tout à l'heure avec le jugement de Dieu, quand Moïse dit « L'Éternel, notre Dieu », c'est quelque chose de fort. Et il rapporte cette parole au verset 8, « Voyez, je vous donne cette terre », etc., etc. Et donc là, il donne aussi la promesse d'une terre, de la terre qui est promise depuis tant d'années. Dans ces deux versets, Moïse a encouragé le peuple d'Israël en lui disant de fixer ses yeux sur Dieu, qui est leur Dieu, et de fixer aussi leur regard sur ses promesses, ou plutôt sur sa promesse. Le peuple d'Israël avait non seulement la promesse de Dieu d'enfin pouvoir prendre possession du pays de Canaan, mais il avait mieux que la terre promise et mieux que tout au monde. Ils avaient Dieu lui-même qui est leur Dieu. Il n'y a rien de plus grand que d'avoir Dieu en nous. Amen. Il n'y a pas de motivation plus élevée que d'avoir Dieu dans sa vie. Pour le peuple d'Israël, savoir que Dieu est son Dieu, c'était se rappeler qu'il l'avait libéré de l'esclavage en Égypte pour lui appartenir pour toujours. Pour le peuple d'Israël, fixer ses regards sur la promesse de Dieu, c'était se rappeler que Dieu est bon, que Dieu reste fidèle, qu'il a des bonnes choses pour lui, dont une terre qu'il avait promise. Mes amis, le peuple d'Israël avait deux sujets de motivation à garder en tête. La présence de Dieu à ses côtés, et la deuxième chose, la promesse de Dieu de ce pays qu'il lui donne. Mais pour ne pas les perdre de vue, les Israélites devaient sans cesse se rappeler que Dieu est leur Dieu, qu'il est avec eux, croire dans sa promesse et lui obéir en prenant possession du pays. Vous avez entendu ce que j'ai dit ? Rappel, se rappeler. Tout commence là. Et tant de fois, ils ont oublié ce que Dieu avait fait. Qu'est-ce que cela nous enseigne ? À nous aujourd'hui, nous ne sommes pas le peuple d'Israël à cette période-là. Et nous n'avons pas un pays à conquérir. Qu'est-ce que tout cela nous enseigne ? Nous devons avoir ces deux plus grandes motivations, la présence de Dieu et aussi la promesse de Dieu. Et j'aimerais qu'on prenne un petit temps sur ces deux éléments. Parlons de la présence de Dieu. Notre plus grande motivation doit être Dieu lui-même. La Bible nous rappelle quelque chose de très fort. Nous avions nous aussi besoin d'être libérés de l'esclavage, non de l'Égypte, mais du péché. C'est Jésus-Christ, notre grand libérateur, qui est venu sur terre pour mourir à notre place, afin que nous puissions recevoir le pardon des péchés et jouir de la relation avec Dieu. C'est énorme ce que Dieu a fait par Jésus. Mes amis, le sujet de joie le plus grand, la motivation la plus élevée, capable de transformer notre vie, de nous donner, de nous amener à nous donner à fond pour Dieu et pour les autres, à aimer au point de nous sacrifier pour les autres, c'est de nous rappeler, non seulement d'avoir Dieu dans notre vie, mais de nous rappeler le sacrifice de Jésus-Christ, mort pour nous, à notre place. Question. Est-ce qu'aujourd'hui encore, nous chérissons la présence de Dieu dans notre vie ? Est-ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ continue à nous bouleverser ? Je ne sais pas où chacun en est avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais j'aimerais vous rappeler ceci. Cette bonne nouvelle doit continuer à nous bouleverser. Sinon, nous ne grandirons pas dans notre foi. Toute notre foi a besoin de l'Évangile. Ce n'est pas une vérité que j'ai besoin pour un temps et puis après j'ai fini. Et nous avons entendu le témoignage de Steve qui nous disait qu'il a été touché par la grâce de Dieu. Et bien des années après, il nous dit devant nous qu'il avait été touché par un chant qui dit que notre dette a été payée. La croissance dans la vie chrétienne dépendra toujours de l'Évangile, pas de tes efforts. La croissance dans la vie chrétienne ne dépendra jamais de tes efforts, mais de l'Évangile, de ce que Christ a fait pour toi. Et tu as besoin de t'en rappeler. Tu as besoin d'en être encore et encore bouleversé. Jésus doit devenir ton plus grand trésor et continuer à te bouleverser. Je me rappelle, après une longue vie chrétienne, un homme a fait cette prière qui m'a touché. Il dit ceci, « Jésus, je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'aimes autant. » Wow ! Ça m'a donné les frissons à l'entendre le dire. Cet homme est resté toute sa vie émerveillé par le sacrifice de Jésus et encore plus amoureux de lui. Et nous ? Parlons maintenant de la promesse de Dieu. Dieu promet au peuple d'Israël, dans le désert, de lui donner le pays de Canaan. Alors c'est sûr que si on est dans un désert, on a envie d'enfin d'habiter dans un pays, la Bible dit, où coule le lait et le miel, une manière de dire que voilà, c'est là qu'ils pourront enfin sortir de leur désert. Il promet ce pays. Pour nous, comme pour ce peuple, Dieu promet quelque chose de bien plus grand. Bien, bien, bien plus grand. Il promet la vie éternelle au paradis. Une nouvelle terre nous attend, les amis, dans la présence de Dieu. Mes amis, il n'y a pas de plus grande motivation au monde que de se rappeler la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais aussi d'avoir l'espérance de la vie éternelle au paradis. Voici ce que l'apôtre Pierre dit à ce sujet dans 2 Pierre 3, verset 13. « Mais nous, nous attendons comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Quel lien fort il y a entre ce Dieu qui promet au peuple d'Israël la terre, un pays, Et ensuite, paf, plus loin, ça appelait quelque chose de beaucoup plus grand. La nouvelle terre où la justice habitera. Et voici ce qui me réjouit toujours quand je lis cela, sur cette nouvelle terre. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 21, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. » Vous entendez ce rappel ? Il y a encore un lien très fort entre ce que Dieu disait au peuple d'Israël ou plutôt Moïse disait que Dieu est leur Dieu. Et là, c'est clairement dit, Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera quoi ? Toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Et là, on ne parle pas de quand ça nous arrive sur cette terre où d'un coup on a fait le deuil de quelqu'un qui est décédé et puis des années après enfin on a pu faire le deuil. On ne parle pas de ça. Le deuil c'est vraiment quelque chose de très fort ici. C'est que tout ce qui était difficile à vivre sur la terre, Dieu va faire de façon à ce que il n'y a plus de larmes, plus de tristesse par rapport à notre vécu. C'est quelque chose de très fort. Dieu veut effacer cela pour que nous puissions jouir de sa présence pleinement et pouvoir vivre pleinement dans cette joie qu'il y a en lui. Et j'aime cette phrase, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Définitivement disparu. Je me rappelle de situations compliquées que j'ai pu vivre et je voyais deux personnes qui, je me dis, mais comment elles vont faire pour pouvoir continuer à s'entendre ? Et ça arrive dans plein d'églises, qu'il y a des chrétiens qui peuvent avoir des difficultés de relations, etc. Imaginez un peu ces personnes qui se retrouvent au paradis. Eh bien, Dieu va essuyer leurs larmes. Ce n'est pas un Dieu qui va arriver et qui va faire « Voyez, vous n'avez pas bien fait, etc. » Dieu ne va pas être comme cela, n'est-ce pas ? Dieu va essuyer les larmes. C'est la compassion de Dieu qui nous attend. Bien sûr, quand je parle de ça, on parle de vrais chrétiens, de personnes qui sont sauvées. Waouh ! Quand je vois ce texte, j'ai hâte de vivre sur cette nouvelle terre où Dieu habitera et où nous jouirons d'un bonheur total et éternel. Mais arrêtons-nous un instant. Croyons-nous pleinement dans cette promesse du paradis, du pays céleste ? Est-ce que cette promesse nous fait rêver et nous pousse à servir Dieu au quotidien, quel qu'en soit le prix ? Où est-ce qu'on en est par rapport à cela ? J'avais dit une fois ici, plus on a la tête dans le ciel et plus on a les pieds sur terre. Ça, c'est la vie chrétienne, normale. Mais plus on a la tête sur terre et moins on a les pieds sur terre. Dans le sens qu'on ne vit pas dans la réalité. Nous avons besoin de nous rappeler sans cesse que Christ revient et méditer sur ce retour, sur le pays céleste qui nous attend. Mes amis, que l'amour de Dieu et notre éternité nous poussent à l'action. Que ces vérités du retour de Christ, de cette nouvelle terre qui nous attend, renforcent notre foi et notre détermination à bien nous préparer pour rencontrer notre Dieu. Soyons sans cesse dans la louange et la reconnaissance envers Jésus-Christ mort et ressuscité qui revient bientôt. Que notre espérance nous pousse à chérir la présence de Dieu en nous et à chercher à lui plaire dans tous les domaines de notre vie. J'aimerais finir avec une image que j'avais donnée il y a quelques années de cela. Imaginez, alors c'est vraiment de l'imaginaire, hein, mais imaginez, nous chrétiens, nous sommes comme quelqu'un qui a régulièrement une personne au téléphone. Nous parlons avec elle, nous apprenons à mieux la connaître, nous écoutons des paroles qui ne cessent de nous transformer. Au bout du fil, nous entendons dans sa voix un amour tellement saisissant qu'il a un fort impact dans notre vie. Nous n'avons jamais vu réellement cette personne, mais juste ses coups de fil sont suffisants pour nous transformer. Pendant ces années, il y a ces échanges, des émotions vécues, et des changements dans notre vie, mais nous n'avons jamais rencontré, comme je l'ai dit, cette personne. Le désir de voir cette personne est toujours plus grand. Cette personne, au bout du fil, nous dit à plusieurs reprises, « Je viens bientôt. » Alors nous attendons avec un amour grandissant pour cette personne. Peut-être qu'à chaque fois, nous nous réveillons, « Ah, il n'est pas encore là. » Et puis nous attendons à son retour. L'image que je viens de donner est très faible comparée à ce que nous vivons. Mais je voulais souligner le côté intime de l'attente du retour de Jésus-Christ. Si nous l'attendons avec joie, c'est parce que nous vivons dans l'intimité. Plus nous passons du temps en tête à tête avec Dieu, plus notre désir de voir Jésus-Christ revenir devient intense. Je le redis, tu peux l'afficher ? Plus nous passons du temps en tête à tête avec Jésus, avec Dieu, plus notre désir de voir Jésus-Christ revenir devient intense. Et nous voulons lui plaire. Nous l'aimons de plus en plus. Nous voulons lui exprimer notre reconnaissance et par notre manière de vivre. Péché est pour nous horrible parce que ça casse la relation avec lui et ça amène à exprimer devant Dieu une ingratitude que nous ne voulons pas exprimer. Heureusement, nous avons la possibilité de nous repentir, mais nous sommes tellement pleins d'amour pour Dieu que nous souhaitons qu'une chose, vivre dans sa présence et partager son amour. Je vais maintenant conclure. Quel est le sujet de motivation le plus élevé au monde, capable de transformer et de nous pousser à nous donner entièrement pour Dieu et pour les autres? C'est d'avoir Dieu dans notre vie. C'est d'avoir été gracié par le sacrifice de Jésus-Christ mort à notre place. C'est d'avoir l'espérance d'un pays céleste. J'ai laissé volontairement quel est le sujet. J'aurais pu mettre quels sont les sujets. Et il y en a trois. Mais en fait, les trois ne sont qu'un. C'est Dieu. Mes amis, pour que ces sujets de joie continuent à nous bouleverser, à nous transformer, à nous pousser à vivre à fond pour Dieu et pour les autres, chérissons la présence de Dieu dans notre vie. Soyons sans cesse reconnaissants pour Jésus-Christ qui nous a libérés de la mort et de l'enfer. Louons sans cesse Dieu pour le paradis qu'il prépare pour nous et vivons pour lui plaire. Je vais prier. Dieu notre Père, tu connais nos cœurs. Nous avons tellement besoin que tu continues à nous bouleverser tout à nouveau par ta présence, par la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort pour nous et par l'espérance de la vie éternelle au paradis. Pardon de nous être habitués à l'évangile, à ta présence en nous et d'oublier si souvent ces cadeaux tellement immenses que tu nous as donnés. Notre Dieu, aide-nous à nous maintenir dans la reconnaissance et la louange pour tout ce que tu nous as donné, afin que toute notre vie soit bouleversée, oui, par ta personne, par l'évangile et l'espérance du retour de Christ. Nous t'aimons, notre Dieu. Amen.